más que en archivo o fotológico, o sea, la colaboración en ese sentido puede ser en mi mano también. El tiempo
sí, boom, ¿no?
De martes a jueves, de acuerdo. No, no.
Chercher la caméra là. Elle va un peu nulle part.
C'était là une fois.
C'est bon. Bon, commençons. Pat. OK, bon, bienvenue tout le monde. Bienvenue au Comité pour la République du Canada. Moi, c'est Jean-Philippe Lebleu. Je vais faire une présentation, donner un peu un aperçu de ce qui se passe au niveau politique, environ une demi-heure. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions. Et après ça, j'aimerais laisser la place à Bruce Director, qui va s'adresser à nous via Virginie, aux États-Unis, qui devrait donner aux gens un bon sens de qu'est-ce que notre mouvement essaie d'accomplir. Et j'ai commencé aujourd'hui en parlant de... J'ai parlé beaucoup aujourd'hui de ce qui se passe en Europe avec la fameuse crise économique dont plusieurs personnes ont entendu parler. Ils ont notamment entendu parler du cas de la Grèce, comme quoi la Grèce serait dans une crise époustouflante. Ce qui se passe vraiment, c'est que ce à quoi on a affaire, c'est une crise qui est internationale, la première des choses. C'est une crise du système mondial. Il n'y a pas de crise américaine ou de crise européenne. Tout ça fait partie du même, du même tas de fumier, pour utiliser une expression odorante. Et je parlais aussi, pour les gens ici qui vont reconnaître, la banque Banco Santander, parce que M. Larouche était très très clair et a fait un geste très très stratégique et intelligent. Tout de suite en entendant parler de cette rumeur que l'Europe avait des problèmes financiers qui pouvaient être résolus avec quelques réformettes fiscales, Larouche a tout de suite vu clair en disant, écoutez, le problème c'est pas les nations, le problème c'est pas Grèce, c'est pas les fameuses nations nommées pigs. Il y a un terme en Europe qui signifie le Portugal, l'Irlande, la Grèce et Spain, l'Espagne, pigs. Et c'est un terme que les banquiers là-bas utilisent pour identifier des nations qu'on pourrait appeler des peut-être reprendre l'expression de George Bush, des États voyous. Des États voyous de la finance. Et M. Larouche, lui, qui a une compréhension beaucoup plus, je dirais, dynamique de la situation, beaucoup plus grande, tout de suite vu que ce qui est en faillite, c'est le système financier international, c'est des familles de banquiers. Et le cas de Banco Santander, qui est une banque qui est une des plus grosses banques de l'Europe, qui est aussi une des banques qui possède 10% des actifs financiers bancaires en Amérique latine, dont je pense qu'il y a 11% au Brésil, bientôt 13%. Cette banque-là, qui existe depuis le 19e siècle, est une banque qui est originairement de famille espagnole, la famille Botín López, et qui a été récemment, en 88, est devenue partie intégrante du système de l'Empire britannique à travers la Banque royale d'Écosse. Et juste pour donner un peu une idée de la stupidité du système économique actuel. C'est qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple. Imaginez que vous pourriez vous acheter une maison, tout simplement, non pas en empruntant de l'argent, mais en actuellement en créant une dette. Une dette, par exemple, de 500$. Fait que si vous donnez, si moi je décide de donner 500$ à mon ami Pascal, donc j'ai une dette de 500$ et je me tourne voir les banquiers et je leur fais des promesses. Je leur dis, écoute, prête-moi 500$, j'ai mon ami qui me doit de l'argent, donc je te redonnerai ça dans quelques semaines, pas de problème. Donc, la personne vous prête 500$. Bon, imaginez que vous parlez de ça à 500 personnes. Imaginez que vous allez voir 500 personnes différentes et que vous leur dites la même chose. Mon ami me doit 500$. Je vais te le rembourser, voyons, pas de problème. Et vous vous retrouvez rapidement avec, si vous êtes sur le système financier, évidemment, on parle de plus gros chiffres, mais avec, mettons 500$, vous parlez avec 5000 personnes, vous achetez une maison assez rapidement, avec une dette de 500$. C'est intéressant. Mais complètement stupide. Et souvent, nos économistes, qui sont souvent des bonnes gens, ont ce problème que, pour eux, la réalité physique n'a pas nécessairement d'utilité, comme dans ce cas-là. Et c'est un gros problème qu'on a parce que plusieurs banques, et qui fait que Banco Santander, malgré ses profits annuels de cette année de 8,9 milliards, qui est assez impressionnant pour les gens de la finance, c'est un peu difficile de faire confiance à une banque qui traite ses dettes comme des actifs. C'est encore plus inquiétant quand c'est tout le système financier qui agit de cette façon-là. Donc, M. Larouche dit, écoutez, arrêtez de nous emmerder avec vos exigences, parce que les exigences des banques, les exigences posées à la Grèce ne sont pas des exigences d'enfants de cœur. On parle de réformes fiscales énormes, de même type de réformes fiscales qui nous amènent au fascisme. C'est-à-dire qu'à un certain point, il y a une limite à ce que la nation peut prendre. Par exemple, on parle de... parce que, il y a eu plusieurs rencontres de la Commission européenne. Il y en a eu une, je crois que c'était le 11 février. Et tout le monde parle de vraiment donner des sérieuses baffes fiscales à la Grèce et aux autres nations. Parce qu'évidemment, le projet, c'est d'étendre ces mesures-là à travers l'Europe. Et justement, de vraiment de couler les nations. Et ça, c'est un point que M. Larouche a fait très sérieusement, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une réforme académique. C'est vraiment, juste donner un exemple, au dernier webcast de M. Larouche, il y a un journaliste du Kazakhstan qui a posé une question sur l'euro, sur l'Europe. Il avait posé de façon très naïve, il demande, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas seulement retirer la Grèce de la zone européenne? Est-ce que ça ne sauverait pas le problème? M. Larouche a dit, non, écoutez, ce que ces gens-là essaient de faire avec l'Union européenne, c'est d'écraser les nations. Il n'y a pas personne qui va se retirer de là. C'est au contraire, ces nations-là vont être pillées au maximum. Et s'ils refusent, c'est pour ça, justement. C'est pour ça que vous avez des propositions d'un peu partout, venant de la France, ancien premier ministre, M. Balladur. Vous avez aussi Alberto Giovannini, de la commission, un des conseillers de la Commission européenne, qui parlent directement de système impérial ou qui vont faire comme M. Balladur où il dit, je vais donner la citation en anglais, je vais la traduire. Bon, il y a deux citations de M. Balladur et ça, c'est un ancien premier ministre français, donc c'est pas quelqu'un qui a un blog là, qui passe son temps sur Internet. C'est quelqu'un qui donc M. Balladur, donc il y a deux citations, il dit tout simplement the Euro group, which is composed of the finance ministers of the 16 members of the zone, be given the power to approve the planned budget elaborated by the government before they are submitted to the respective parliament. Donc, de dire que l'euro, les ministres de finances qui sont dans la Commission européenne, devront valider les projets des nations avant même que la nation le valide elle-même. Hein? Et là, il ne s'agit pas de validation. Votre chemin de fer devrait passer par telle ville. On parle vraiment de validation financière. Et si vous connaissez un peu le traité de Maastricht, c'est pas très généreux. Et l'autre citation, qui est un peu dans le même sens, il dit « We will have to give new powers to the Euro group it admit that any member state of the Eurozone will have to submit to obligations which restrict its freedom of action. Donc là, on parle de que les nouveaux pouvoirs du groupe euro doivent dire que chaque État de la zone euro, donc chaque État, pas juste la Grèce, là, chaque État, devront subir les obligations qui sont contraintes, qui contraignent la liberté d'action. Donc, c'est pas juste la Grèce là, qu'on parle, c'est toute l'euro, toute la zone euro. Et il y a une autre citation, mais M. Giovannini, je peux peut-être la donner ici. Si je la retrouve. Non, c'était pas là-dedans, c'est dans mon document. Enfin, je l'ai retrouvé peut-être tantôt, je la lirai, mais c'est une citation comme quoi vraiment le système impérial était le système qu'on devait appliquer. Et le système impérial est anti-nation, c'est ça la définition d'un empire. Donc, j'ai parlé un peu de comment on peut s'acheter une maison assez rapidement en Europe. Imaginez que... Bon, la petite blague de 500$, ça peut passer comme une blague entre nous, mais quand vous êtes des gens qui parlent de millions de dollars et de milliards de dollars, ben là, on parle d'une somme d'argent qui est complètement fictive. Il n'y a aucune valeur dans tout ça. Et l'autre aspect du problème, c'est ce qui s'appelle en anglais le carry trade. Et ça, c'est très important parce que c'est là où on voit que cette banque, Banco Santander, qui est énormément impliquée aussi dans l'Amérique latine, encore là, on a une génération d'actifs complètement fictifs. Et pour vous donner une idée un peu, c'est tout simple. Vous avez par exemple la Réserve fédérale américaine, qui a un taux d'intérêt très très bas. Je pense que c'est 1,5 ou 1,2%. 1,25. Et vous allez emprunter de l'argent à cette Réserve fédérale. Emprunter 100$, je ne sais pas. Et après ça, vous allez voir vos amis au Brésil. Et le Brésil vous offre, venez investir chez nous, acheter les bons de notre gouvernement. On vous offre 8,75%. Donc déjà là, si vous achetez 100$, vous devez redonner 1,25$ à la Réserve fédérale et vous gagnez 8,75$ venant du Brésil. C'est bon, ça c'est juste 100$, on parle pas de millions de dollars encore. Donc, enfin, faites le calcul, mais c'est de l'argent fait assez rapidement. Et en plus, le problème, donner un peu le ridicule de la situation, c'est que avec cette opportunité de faire de l'argent, ben les gens se sont vraiment lancés dans cette aventure où là on emprunte de l'argent à la Réserve fédérale, le Japon. Peut-être le Canada aussi, qui avait un taux très, très bas.
Prendre une hypothèque, épargne personnelle.
Il y a plein d'options. Mais c'est-à-dire que avec toute cette activité, les gens investissaient au Brésil vraiment énormément. Et ce qui a fait monter la valeur du réel. Parce que les gens investissent, donc c'est un signe de croissance. Et ce qui est arrivé, c'est que la monnaie du Brésil, en un an, a eu une augmentation de... environ 29%. Donc, un tiers. Donc, imaginez, donc dans le fond, si vous investissez 100$ pour donner 1,25$ à la Réserve fédérale, vous venez de gagner environ 35$. Donc, si jamais vous avez cherché des trucs pour faire de l'argent, je dirais profitez-en aujourd'hui parce que ça ne va pas durer. Même que déjà, c'est ça le problème. Parce que la Banco Santander, malgré ses profits, malgré son rapport annuel qui montre des profits, a eu par la suite une chute. Il y a eu une chute de 10% de la valeur de ses actions. Parce que peut-être que ce système-là, les gens se posent des questions. Votre système, est-ce que c'est rationnel au moins? Est-ce qu'il y a un peu de rationalité dans ça? C'est encore plus virtuel que les jeux vidéo où les gens s'entretuent, je veux dire. Ça n'a aucune base avec la réalité. Et si vous regardez en plus, si vous regardez justement la situation de l'économie brésilienne, le Brésil, c'est un exemple de cheap labor. Je veux dire, si c'est pas ce n'est pas de l'esclavage. C'est vraiment une économie qui est basée sur cheap labor, de la canne à sucre, des choses comme ça. Et le Brésil qui doit redonner ce 8,75%, et en passant, ce taux d'intérêt est énorme. C'est très rare d'avoir ça. Et donc, il faut que le Brésil trouve l'argent quelque part. Et c'est la population brésilienne qui subit les politiques, des politiques qui sont impérialistes. C'est ça l'impérialisme, c'est vraiment que on garde les nations enterrées. On les enterre le plus bas possible et on garde un contrôle à travers ce pillage. Et on empêche des choses comme les quatre puissances. Parce que M. Larouche, et c'est important de voir ça, on est très sérieux en termes de solutions économiques. Solutions pour vraiment... non seulement arrêter la crise financière, mais d'être capable de redévelopper les nations, de réaffirmer la souveraineté des nations. Et ça se fait à travers le développement. M. Larouche organise depuis déjà plusieurs années sur ce concept des quatre puissances. On organise depuis des décennies, mais ça, c'est ce dont M. Larouche parle depuis quelques années, à savoir qu'il faut réunir les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde dans un partenariat pour briser avec la règle du jeu et d'être capable de relancer du développement sur les prochaines générations. Grands projets de développement, chemin de fer, énergie nucléaire, ça c'est très important. Même on parle d'un programme spatial, j'en parle un peu, je vais parler de votre bon ami Obama. Donc, de réunir ces nations-là. Et c'est important de voir les États-Unis, on va en reparler, mais comme je vous disais, on veut réaffirmer la souveraineté des nations. C'est un peu la raison pour laquelle on s'appelle le Comité pour la République du Canada. C'est-à-dire qu'il faut réaffirmer cette souveraineté. Et quelque chose dont les gens ont entendu parler, c'est ce fameux groupe-là, le BRIC. On entend parler depuis déjà plusieurs semaines. Où on retrouve la Russie, la Chine et l'Inde. Et on retrouve le... les gens peuvent compléter le jeu. Qui manque là?
Brésil.
Ouais, il y en a qui disent que c'est le Brésil. Beaucoup de gens disent que c'est le Brésil, mais M. Larouche dit non, ça c'est le British Empire. Et justement, quand on voit le rôle de Banco Santander dans cette histoire-là, parce que l'idée qui est vendue à ces nations-là, et c'est pas la première arnaque qu'ils se font offrir, mais c'est vraiment l'idée écoutez, messieurs de la Russie, de la Chine et de l'Inde, on a une montagne d'argent à vous offrir. Venez, joignez-vous à ce qu'on fait en Europe, à ce qui se fait au Brésil. Hein, le Brésil, croissance infinie. Je ne sais pas une croissance de quoi, mais... laissez faire les États-Unis. Que les États-Unis s'en aillent, tout le monde les déteste, ils envahissent tout le monde, ils sont en crise économique. Voyez le nouveau vecteur, le nouveau pôle de l'économie. Et ça, c'est ça l'arnaque. Et au Canada aussi, on a, je dirais à travers le monde, on a un gros problème en termes de comprendre ce que représentent les États-Unis en termes de sa force en tant que république, pas en tant que juste... étant puissant et ayant beaucoup d'argent. C'est pas ça le point. Et justement, ça va être important de libérer ces nations-là de cette emprise-là. Et aussi, justement, c'est-à-dire, en Europe, vous avez une des idées qui est vendue à la Russie, la Chine et l'Inde, c'est cette question de l'immobilier en Europe. C'est-à-dire que vous avez là aussi une bulle, vous avez des nouveaux produits, des dérivés immobiliers, c'est ma traduction à peu près. Mais en gros, disons que c'est cette offre monétaire, alors que ce dont Larouche parle, c'est de briser avec cet ordre-là et de revenir au développement physique des nations. Donc ça, c'est un des très gros points de notre mouvement, c'est-à-dire que on parle pas de changer les choses en achetant du café équitable, ou en recyclant le papier, ou en consommant moins, en fermant les lumières le soir. Il s'agit vraiment de penser grand et de penser que une république, c'est pas seulement une nation avec des limites, mais c'est un acquis d'une bataille historique pour le développement de l'espèce humaine. Et c'est ce qui m'amène, je vais terminer avec ça parce que déjà je parle beaucoup, aux États-Unis, la situation d'Obama est précaire. Depuis l'annonce de M. Obama en termes de couper dans les effectifs de la NASA, M. LaRoche a dit, OK, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase. M. Obama doit être destitué parce qu'il représente des intérêts étrangers et que on a eu les réformes de la santé basées sur un système que les nazis avaient appliqué. On a eu un renflouement de soldats en Afghanistan. On a aussi, je n'ai pas parlé beaucoup, mais juste pour terminer là-dessus, mais on parle aussi de la création d'une commission afin de réformer la finance aux États-Unis. Et c'est des gens qui... il y a justement eu une conférence récemment, une conférence du... s'appelle le Government Debt Crisis Forum. Et les gens qui étaient là, pour donner juste un exemple, Douglas Holtz Eakin, qui était un des participants, qui parle de réforme fiscale. Lui, sa première chose à dire, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire peur aux gens. Et quand on lui a demandé la question, à savoir, est-ce que vous pensez qu'on devrait couper le fameux Medicare par 50%, il a dit oui, parce qu'il faut que les gens aient peur. Donc, de soumettre les gens à des réformes fiscales. Donc, ça, c'est une chose. Et M. Obama, justement, cette proposition-là de cette commission a été refusée par le Sénat. M. Obama l'a fait quand même, à travers le Executive Order. C'est un truc de... Un ancien joujou de George Bush Jr. C'est-à-dire que peu importe ce que ton Sénat ou ton Congrès dit, tu te donnes le droit de faire passer les lois qui n'ont pas été votées. Donc, vous avez tout ça, et là, finalement, vous avez des coupures dans la NASA. Vous avez le programme Constellation, qui est le programme afin de remettre un homme sur la Lune, ou une femme, de retourner sur la Lune et de viser l'industrialisation de ce projet-là, a été... Obama va dire, on a seulement coupé dans les effectifs. Il y a des gens qui vont vous dire, vous avez tellement coupé que ce que vous faites, c'est que vous annulez le programme. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Donc, il y a une règle aux États-Unis qui, beaucoup de membres du Congrès, justement, ont révélé cette loi. Ils ont dit, ben votre truc est anticonstitutionnel. Donc, ils vont défier cette proposition-là. Et je suis sûr que Bruce va en parler, il pourra pas en parler plus de façon plus ample. Mais quand on arrête un programme spatial, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez vous empêchez le développement de l'avenir. Et vous empêchez le vecteur, justement, de développement scientifique et technologique le plus puissant qu'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui a été sous attaque depuis très longtemps, depuis les années 60, où déjà les gens à l'époque de l'Empire britannique vous disaient que le problème avec le programme spatial, c'est pas seulement que ça coûtait cher, mais c'est que ça créait trop d'optimisme. Trop d'optimisme, non, les gens se font des illusions, ils pensent qu'on va sauver toutes les pauvres de la planète Terre en Asie, en Inde et tout ça. Non, c'est chaotique, ça. On veut pas ça. Et c'est le point que nous on fait, c'est-à-dire que la même empire qui est en train de chercher à imposer sur l'Europe le même type de politique qu'on a vu avec Hitler ou Mussolini, parce que c'est ce genre de groupe-là qui finance ce genre d'individus, comme Hitler, la dictature qui vise à imposer la finance. Donc, ces gens-là aussi cherchent à détruire le potentiel de développement économique. Et la NASA est le vecteur pour ça. Donc, Obama doit quitter. Il faut un nouveau système financier. Monsieur, je sais pas ça, un nouveau Glass-Steagall qui fait référence à une loi de l'époque. Faut que je termine avec ça. C'est-à-dire que notre campagne, on a différentes campagnes, dont aux États-Unis, on a trois candidats dans le Congrès, dans le Parti démocrate. Un, justement, dans la région au Texas, dans le district de la NASA. Un dans le district de Nancy Pelosi, en Californie, et aussi au Massachusetts. Et ces trois candidats-là visent, comme je disais tantôt, c'est pas de la politique de région, c'est une politique nationale. Il faut recruter des gens à une politique nationale qui vise à briser cet empire-là. Donc, par exemple, à Houston, ben, vous aviez des signes qui disaient « Save NASA, impeach Obama ». Et contrairement au candidat républicain, parce qu'on est intervenu dans une de leurs conférences, je crois que c'était hier ou avant-hier, et non, bon, on est démocrate, on était là, on parlait aux gens, les gens étaient très réceptifs à nos idées, et une de nos membres a posé une question aux républicains, en élargeant justement le débat, en disant, tu veux sauver NASA, il faut arrêter l'Empire britannique, il faut arrêter ses politiques fiscales démesurées et relancer le développement. Et sa réponse a été de dire, non, moi c'est simplement la NASA. Là. Moi, on va sauver les emplois de la région. Et ça, c'est le genre d'approche qui va échouer. Et la réponse qu'on a eue après cette intervention-là a été justement que les gens étaient encore plus enthousiastes à venir nous parler. Parce qu'on avait situé ça à un niveau, au seul niveau où ça peut fonctionner, à ce niveau-là. Et vous avez aussi une autre chose dont il faut parler, c'est la campagne qu'on a eue en Bretagne, c'est-à-dire dans le nord de la France. Et on avait un slogan qui était très bon, qui s'appelle, écrit par Chimned, ça dit « Pour une Bretagne grande », pour ne pas mélanger justement avec la Grande-Bretagne. Okay? la Bretagne, c'est une région de la France qui où vraiment, il y a des élections régionales qui vont se produire. On a réussi avec notre groupe à trouver 91 candidats pour les élections, ce qui est déjà quelque chose d'assez phénoménal. 45 hommes, 46 femmes, parce que les exigences sont qu'il y ait pour chaque candidat masculin et candidat féminin. Et il y a une campagne qui se déroule justement sur train à lévitation magnétique, développement d'énergie nucléaire, pour vraiment qu'il y ait un boom économique dans cette région-là, qui est une région très affectée à cause... c'est une région qui vide beaucoup des pêches. Et les pêches, comme on sait, c'est la misère noire, pas seulement dans les maritimes ici, mais en Bretagne aussi. Et encore une fois, comme on a fait en 95, quand Chimned s'est présenté à la présidence, on est les candidats surprises. Il y a 11 candidats, mais aussi on est peut-être la force, je pense, le mouvement le plus fort... en termes de vraiment créer un changement en France afin de qu'il y ait une répercussion afin de créer ces quatre puissances-là. Okay? Donc, il faut que la France, il faut que les nations, comme dans le Canada, que les gens pensent grand, très grand. Je vous dis, j'aime ça me taquiner un peu nos amis écologistes, mais on ne va pas sauver le monde en recyclant du papier. Il faut penser justement à comment on va renverser ces politiques-là. C'est pour ça qu'on a besoin que tous les gens ici viennent organiser avec nous, viennent organiser dans la rue, organisent des conférences, afin qu'on puisse vraiment mettre ces idées-là sur la table et qu'on fasse le changement nécessaire pour éviter qu'un empire qui est en faillite, déjà là, ça ne devrait pas être très, très épeurant. Ils n'en ont pas d'argent. Donc, disons-leur et mettons ça à la poubelle et revenons au développement des nations. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être prendre une ou deux questions. Après ça, je vais appeler Bruce puis on va commencer la présentation. S'il y a des questions.
J'ai une question sur la santé de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de péjoratif dans cette
réforme?
Socialement,
qu'est-ce qu'il y a de péjoratif? C'est ça. Il y a eu les médias ont vraiment bouché la vérité à ce niveau-là. Nous, ce qu'on a démontré, c'est que Obama, avec ses conseillers, des gens comme Peter Orszag, Larry Summers, Margaret Batin, on a fait un dossier là-dessus. Et vraiment, la politique, c'est non seulement on va couper dans tout ça. Au début, il parlait, on a un déficit de 2 milliards, il faut vraiment couper. Mais ce qu'ils ont amené, c'est pire que ça. C'est quelque chose qu'on a vu en 1939 et qu'on voit aussi en Angleterre, en 1939 en Allemagne, et qu'on voit aussi qu'on a vu depuis 1999 en Angleterre, qui est une politique de triage, dans le fond. Où là, ce qu'on fait, c'est que vos experts en économie vous donnent une liste de gens qui méritent ou non les soins de santé basés sur des critères souvent d'âge, aussi de maladie. Et c'est là où on revoit ça s'appelait le T4, qui était la loi de Hitler. C'est drôle, on parle de Hitler, mais ça venait de l'Empire britannique. Ça venait du ce qu'il appelait le fonds du roi, je pense à Édouard VIII, qui, eux, faisaient des recherches sur l'euthanasie, afin de valider l'euthanasie. Et bien là, les gens de 65 ans, ça coûte cher. Bon, c'est des choses qu'on entend partout. Mais le problème, c'est que ça vient d'un empire, c'est des politiques impérialistes. Et l'euthanasie, c'est basé sur la finance. Ça n'a rien de moral ou de... On veut aider les gens qui souffrent. C'est vraiment une vision où on va détruire le Medicare, Medicaid ou tout ce qui est santé. Et on va surtout pas s'attaquer aux assurances ni aux compagnies privées. Le fameux HMO aux États-Unis, qui est le système de santé privée. Et eux, ben, c'est évident qu'ils sont là pour l'argent. Ils ont des actionnaires, je veux dire. Donc, on a fait tout un dossier là-dessus avec plus de détails. Mais c'est ça qu'on reproche. Et ça, c'est... Inquiétez-vous pas, c'était évident. Il fallait être sur le terrain, je pense. On a fait un bon rapport là-dessus.
Donc, ça veut dire qu'à long terme, ça va être une catastrophe.
Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on va donner l'assurance à tout le monde, comme ça se disait au début, on entendait ça dans les médias, c'est vraiment le contraire. Même qu'on parle de forcer les gens à acheter des assurances privées. Sinon, ils sont punis par ce qu'ils appellent le IRS, qui est le système de calcul de taxation. Donc imaginez, là, c'est juste du ridicule, c'est vraiment des politiques qui vont détruire la nation.
Est-ce que vous croyez qu'il est conscient des conséquences?
Monsieur Larouche avait déjà identifié ça dès le début dans un document datant de mai 2008 sur les élections américaines. Il avait déjà identifié quel genre d'individu était Barack Obama. Et c'était pas nécessairement un individu moral, mais qui était vraiment façonné par des intérêts extérieurs. J'oserais pas prononcer sur ce que M. Larouche pense, faudrait que je relise exactement sur s'il est conscient ou pas. Mais je dirais de mon expérience que souvent, les gens dans un haut niveau, c'est facile de couper par-ci, par-là, puis de ne pas se rendre compte, d'avoir aucune conception de ce qui se passe, en termes des conséquences physiques de politique. Je laisse ça là-dessus. Peut-être après, je pourrais vous montrer quelques documents qu'on a là-dessus. On a publié beaucoup là-dessus. Peut-être une autre question après ça. Good. Il faut allumer le...